Bonjour et bienvenue à Au-delà des limites. Bonjour Yvan.
Bonjour Francine.
Ça va bien?
Ça va très bien.
Vous êtes fin prêt?
Oh oui, puis si on avait le droit d'avoir des invités chouchous, ça n'en serait une.
Mais vous n'avez pas le droit.
Ah.
Mais on va quand même dire que c'est un chouchou.
Oui, ah oui, oui, sûrement.
Alors Yvan Deslauriers et moi-même, Francine Forget, on a le plaisir d'animer ce balado Au-delà des limites, qui est une conversation d'une heure ouverte et sans complaisance avec des personnes déterminées, persévérantes, résilientes, parfois impatientes d'après ce que notre invité nous a dit, vivant avec un handicap ou certaines limitations. Mais on met beaucoup l'accent sur leur parcours aussi et leurs projets.
Surtout.
Surtout. Aujourd'hui, on reçoit une personne qui souhaite garder son cœur d'enfant pour continuer de s'émerveiller. Ce sont ses propres mots. C'est un très bel objectif de vie, surtout quand on est une jeune femme qui n'a pas tout à fait atteint 30 ans.
Tout juste.
Tout juste, bientôt. Non-voyante de naissance et atteinte d'ostéogenèse imparfaite, là, les fameux os de verre, elle a grandi entourée d'amour au point de se sentir parfois surprotégée et malgré tout seule. Ce sont d'abord la lecture puis l'écriture qui l'aideront à tracer son chemin, comme on le verra, vers une forme d'émancipation et qui lui ont permis de vivre librement. Avec sa douce voix d'or, toute jeune, elle lit à voix haute des textes qu'elle écrit. On aura d'ailleurs l'occasion, au cours de la prochaine heure, de faire l'exercice avec elle pour notre plus grand plaisir. Elle occupe le poste de chef de programme jeunesse à l'Institut national canadien pour les aveugles, INCA, un titre qui ne rend pas justice pleinement à la portée de son engagement auprès des jeunes. Elle est aussi administratrice au conseil d'administration de l'ACVEV, l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels. Bonjour Salma Moudrika.
Bonjour Yvan, bonjour Francine.
Bienvenue à notre émission et merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous de m'avoir invitée.
Alors Salma Moudrika, comme on l'a mentionné et comme on en a discuté à certains moments, peut-être trop souvent, mais Yvan et moi, on est beaucoup axés sur des conversations sur l'âge. Tu as 29 ans, bientôt 30 ans.
Absolument.
Oui, c'est ça, le 18 juin prochain.
Oui.
Ça fait quoi penser à passer la trentaine?
Sincèrement, je ne suis pas certaine. J'ai des émotions assez contradictoires, mais je dirais que pour moi, c'est passé un cap, mais c'est plutôt de l'excitation que je ressens, plutôt que de la tristesse, plutôt que de me dire que j'ai un cap qui est passé dans ma vie, qui ne reviendra pas. La nostalgie de mes 20 ans est certes présente, mais en même temps, je pense, sans m'enorgueillir, que j'ai accompli beaucoup plus que ce que les gens de mon âge auraient accompli sans handicap. Donc, je pense que pour moi, la trentaine sera un nouveau chapitre rempli de joie, de nouveaux défis. Et ça va me permettre de partir à la découverte de nouvelles facettes de moi-même avec... pas juste l'excitation de ma folle jeunesse de mes 20 ans, mais avec l'assurance que je peux faire maintenant à 30 ans.
Tu es née à Montréal, de parents marocains.
Oui.
Dans quel genre de famille? As-tu des frères, des sœurs? Tes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie? Peut-être qu'ils travaillaient encore d'ailleurs.
On est une grande famille. On est 6 à la maison, sans mes parents. Mes parents ont toujours été actifs pour subvenir à nos besoins. Et ils ont immigré au Canada l'année de ma naissance, lorsqu'ils se sont rendus compte, quand je suis née, que j'étais aveugle, parce que, bon, la maladie des os de verre n'est pas évidente à diagnostiquer. Mais c'était principalement pour que je puisse avoir un meilleur futur, et parce que mon frère aussi avait la même condition, bien qu'il soit plus âgé. Donc, avec 2 enfants sur 6 dans le même bateau, ils ont décidé de faire le grand saut.
Quand tu parles de la même condition, c'est aveugle.
Les deux conditions.
Ah, les deux conditions.
Les deux conditions.
Oui, nous avons eu un package deal, mon frère et moi.
Et vous êtes combien d'enfants? Vous êtes... Il y a deux enfants sur combien?
Six.
Qui... Sur six mm-hmm. qui ont okay, qui ont eu cette maladie et cette situation à vivre.
Oui, exactement.
Mm. Ça ne t'a pas empêché quand même de faire des études. Tu es allée à l'école Jacques Ouellet.
Oui.
Parle-nous un petit peu de ton séjour à Jacques Ouellet, qui est quand même une école particulière.
Oui, alors c'est une école spécialisée pour les personnes ayant une déficience visuelle. La première chose que j'ai à dire, c'est que c'était un très long séjour parce que mes parents m'ont... je vais reprendre les mots d'une certaine personne qui a vécu à peu près la même chose que moi. Mes parents m'ont parké là, puis ils m'ont un petit peu oublié.
Non, vraiment?
Non, 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 jamais de la vie. Voyons, mes parents m'auraient jamais oublié là. Ils m'aimaient beaucoup trop.
Mm-hmm.
Mais ce que je veux dire, c'est que je suis rentrée là en pré-maternelle. J'avais 4 ans. Et je suis ressortie à 18 ans avec mon diplôme de secondaire 5 en poche.
Mais tu étais bien sûrement dans cette école-là, puisque tu étais première de classe.
Première de classe, c'est vite dit. Je faisais de mon mieux. Après, est-ce que j'étais première de classe? Les classes étaient assez petites que c'était pas tant difficile.
OK, vous étiez deux dans ta classe, là, c'est ça?
Non, disons plutôt que j'avais pas énormément de compétition, mais il faut aussi dire que j'aimais l'école.
Oui, mm-hmm. OK, ça aide, ça aide. Tu dis souvent que dans ta jeunesse, là, dans des entrevues antérieures, on t'a reçu à quelques reprises aussi à notre ancienne émission du vendredi matin, mm-hmm. que tu te sentais enfermée dans une bulle, protégée des dangers de l'extérieur. Tu as eu des bons côtés par rapport à ça, mais aussi des moins bons côtés. Parle-nous-en un petit peu.
Ouais, je pense que le meilleur côté par rapport à ça, c'est d'avoir été capable de développer mon talent pour l'écriture, si je peux m'exprimer ainsi. Mais c'est sûr que les mauvais côtés, c'était beaucoup la solitude que j'ai ressentie, parce que même si mon frère avait la même condition que moi, il était beaucoup plus âgé que moi et il ne fréquentait plus l'école à ce moment-là. Donc, je connaissais personne autre que mon frère qui avait ma maladie. Et pour ce qui est de ma perte de vision, c'est vrai que tous mes autres amis étaient aveugles ou malvoyants. Mais en même temps, je me sentais même unique parmi les aveugles parce que j'avais cette condition de plus. Donc, ça a un peu contribué à renforcer ma solitude et mon sentiment de me sentir comme si je fitais un peu nulle part. Aussi, ça a mis du temps avant que je puisse créer des liens solides d'amitié parce que comme j'étais pas souvent exposée aux autres personnes vu le fait qu'on devait éviter les dangers, ben j'étais pas autorisée à la cour d'école, j'étais pas autorisée par exemple à la cafétéria, j'étais vraiment protégée et ça m'a amenée à vivre beaucoup de frustration, de sentiments d'être incomprise, mais par-dessus tout, une grande injustice.
Une injustice, hein, c'est ça. Et mmh. c'est là que la lecture et l'écriture sont entrées en ligne de compte, n'est-ce pas?
Oui.
Oui, beaucoup.
Oui, beaucoup.
On va en parler quand même pas mal, la lecture et de l'écriture. Mmh. Qu'est-ce que tu lis présentement?
Oh, qu'est-ce que je lis présentement? C'est une bonne question. Je n'ai pas beaucoup de temps. Parce qu'en ce moment, je me consacre plus à mon travail, à des loisirs. J'ai pas vraiment une lecture de chevet en ce moment.
T'as pas de lecture de chevet?
Non.
OK, non. Aucune lecture.
C'est rare, mais en ce moment, non, j'ai pas de lecture.
Mais quand tu lis, là, tu lis comment?
Je lis comment? Avec mes doigts et avec mes oreilles. Je lis avec beaucoup d'attention. Je lis soit dans le but de me divertir ou dans le but d'apprendre quelque chose. J'avoue que ces dernières années, avec la rapidité de notre vie, je lis de moins en moins avec mes doigts et plus avec mes oreilles, surtout avec le rythme de vie que j'ai, où j'ai moins le temps de me poser. Mais ça va surtout être soit d'apprendre quelque chose de me divertir ou de me développer personnellement, d'apprendre, de grandir à travers les écrits de quelqu'un d'autre.
Et les mangas, elles?
Oh, je ne lis pas des mangas, j'écoute des animés parce que les mangas sont pas accessibles.
Ah, voilà.
C'est ça le secret.
Oui, c'est le secret.
C'est la question de l'image.
Ouais, c'est la question de l'image. Ça ne me fait pas moins les aimer. Mais je commence tranquillement parce que j'ai eu des amis qui m'en ont beaucoup parlé. Mmh. J'ai commencé ces dernières années à m'initier à l'écoute d'animé, mais je fais ça aussi pour me divertir et à travers ça, je peux apprendre de belles leçons parce qu'il existe de belles leçons dans les animés quand même.
Oui, c'est ça, comme quoi?
Comme quoi?
Oui. Parle-nous-en un peu de cette passion-là. Oui.
Mon Dieu, j'avoue que je ne m'attendais pas à parler de ça aujourd'hui. Je suis un peu pris au dépourvu, mais vite comme ça, je dirais que l'animé le plus... ou un des animés les plus populaires et les plus aimés dans la communauté, c'est l'animé One Piece, qui est découlé du manga One Piece. Et c'est un jeune garçon qui commence sa quête à l'âge de 17 ans. Et il veut devenir pirate. Donc, ça se déroule sur... principalement, l'action se déroule sur un bateau où on va voyager d'île en île et le garçon va former son équipage. Et ce garçon, il a un rêve, c'est de devenir le roi des pirates. Et en fait, il souhaite devenir le roi des pirates pour être libre, dans le fond, pour ne pas avoir à se faire dicter sa conduite. Je ne peux pas vous faire la grande image parce que l'animé lui-même, et le manga non plus, n'est pas terminé. C'est une très, très, très longue œuvre qui dure depuis plus de 25 ans, sans exagérer, là, vraiment, qui est encore en cours d'écriture. Mais une des belles leçons que je trouve dans cet animé-là, c'est de ne pas abandonner quand on a un rêve. Et tous les membres de l'équipage de ce jeune garçon-là, d'ailleurs, ont tous un rêve qu'ils veulent accomplir dans leur vie. Donc, c'est quand on a un rêve, être capable de le poursuivre le plus possible. Et si on ne peut pas si on ne peut pas en venir à terme, mais de se trouver un ou des successeurs pour poursuivre notre rêve.
Est-ce qu'il n'y a pas un beau parallèle avec Salma et sa quête et sa recherche de liberté?
Ça, c'est sûr. Ça, c'est 100%.
Ça aussi, c'est un projet à longue haleine.
Oui, je pense que c'est le projet de toute une vie.
C'est le projet de toute une vie, oui, c'est ça. Mais c'est un peu ancré dans une personnalité, qu'on soit en situation d'handicap ou pas. Il y a des gens qui vont toujours rechercher une plus grande liberté, non? Est-ce que tu es d'accord?
Je pense que tout dépend ce qu'on définit par le terme liberté.
Quelle est ta définition à toi?
Ma définition à moi, je pense justement que c'est la définition basique, c'est ne pas me faire dire non, ne pas me faire dire que je ne peux pas, ne pas me faire imposer de limites, mais plutôt de me laisser aller, de me laisser faire mon expérience. Et si on a peur, de gérer sa peur, de gérer sa peur en privé, parce que j'ai pas besoin de cette peur-là, elle m'appartient pas.
Dans toute ta recherche, il y a toujours cette combinaison, je ne sais pas si ça a l'air d'être une combinaison gagnante, qui est celle de la lecture et de l'écriture.
Alors, comment est-ce que tu vois l'écriture dans ton cheminement?
Je vois l'écriture, parce que j'allais dire, l'écriture c'est quelque chose qui m'a sauvé la vie, puis après y avoir réfléchi, je me suis dit, mais c'est un peu trop intense de dire ça, mais la réalité, c'est que c'est vrai. Parce que l'écriture m'a donné une tribune par laquelle je pouvais dire des choses que je ne pouvais pas dire, que je n'avais pas la place de dire. Et peut-être que c'est quelque chose que j'ai plus ou moins senti. Parce que même si j'étais bien entourée, j'avais du mal à sentir cette validation des autres le « je te vois, mm-hmm. je t'entends, t'es importante, t'as quelque chose à dire ». Ça, j'ai eu beaucoup de mal à le voir dans ma vie parce que quand on passe une vie où les décisions, où on ne nous implique pas dans les décisions qui concernent notre propre vie, ben on n'est pas le héros de notre vie, on en est simplement le spectateur. Donc, c'était un moyen de dire ce que je pouvais pas dire.
Mais tu le disais à qui? Tu te le disais à toi probablement au début, en l'écrivant.
Oui, mais je n'avais pas forcément besoin d'une audience. Les gens lisaient s'ils étaient intéressés à lire, mais le fait que je l'ai exprimé pour moi, c'est que je le disais au monde, c'est que ça ne restait pas à l'intérieur de moi.
OK. Techniquement, tu écris en braille?
Non, techniquement, j'écris à l'ordinateur.
Ah! Donc, tes écrits peuvent être accessibles aux gens que tu choisis.
Oui.
Est-ce que tes parents ont lu de tes écrits?
Certains, oui, mais pas énormément.
OK.
Juste parce qu'au début, les premières années, je ne partageais pas beaucoup. Et quand je partageais plus à des amis. J'ai pas de raison particulière pourquoi je leur partageais pas forcément, mais je pense que la profondeur de ce que j'écrivais, parfois la profondeur de la détresse dans mes textes, pouvait faire questionner mes parents sur...
Sur leur propre action.
Sur ma sanité, non, plus. ouais.
Fascinant.
Est-ce que tu te sers des technologies ou des médias sociaux, je devrais-je dire, pour justement partager cette écriture qui t'est si chère?
Pas encore, malheureusement. C'est un projet que j'ai dans ma valise de plein de projets, mais c'est pas quelque chose que j'ai été assez brave pour faire. Je trouve ça encore, je pense, très vulnérabilisant de partager ce que j'écris parce que c'est vraiment... Il y a des personnes qui écrivent les histoires de d'autres personnes, il y a des personnes qui écrivent des histoires lambda, mais moi, j'écrivais ce que je vivais. Puis je pense que ça a pris longtemps avant que de me dire que le monde était... En fait, j'avais une très grande impression que le monde n'était pas prêt à l'entendre.
Et là, dans l'émission d'aujourd'hui, on est prêt à t'entendre. Je sais que tu as préparé deux poèmes pour nous.
Absolument.
Ben, pas nécessairement pour nous. T'as choisi deux poèmes.
Oh, je pensais que ça avait été fait en fonction de nous. Je suis pas sérieuse, Salma.
Ben, un petit peu quand même.
Ah, voilà. Elle est tellement studieuse que c'est sûr qu'elle l'a fait un petit peu, en tenant compte du contexte.
Quand ces poèmes-là ont-ils été écrits?
Je me suis ramenée à l'époque la plus prolifique de mon histoire, c'est-à-dire en 2011. Je dis prolifique, mais probablement c'est malheureusement peut-être la plus douloureuse aussi.
OK. Donc, c'est à mi-parcours, quand tu avais 15 ans,
ouais,
à peu près.
Oui, exactement, quand j'avais 15 ans. Il y a même un poème qui a été écrit pile et c'est échelonné sur 3 jours, du 17 au 19 juin 2011. Donc, je l'ai écrit vraiment à mes 15 ans. Et un poème qui est venu plus tard en octobre 2011, je dirais.
OK.
Ouais.
Alors, on te laisse aller.
Ben, ma question, c'est par lequel souhaitez-vous que je commence?
Mon Dieu, ben celui que tu as écrit quand tu avais 15 ans.
Je vais te contredire, puis je pense que je vais commencer avec l'autre. Et est-ce que je peux me mettre...
Ça arrive toujours chez nous, ça.
Parce que lui que j'ai écrit à mes 15 ans, je trouve qu'il est plus frappant qu'on devrait terminer par lui.
D'accord. OK, on va avoir le punch à la fin.
Okay. OK, d'accord. Ben, je vais commencer par... est-ce que je peux mettre un contexte?
Oui, vas-y.
Le poème s'appelle « Futur adulte ». Je l'ai écrit à 15 ans parce qu'à ce moment-là, j'avais rencontré à mon école une jeune fille qui avait 12 ans c'est elle qui m'avait inspiré ce poème-là parce qu'elle me parlait de ses rêves, elle me parlait de comment elle voyait sa vie plus tard. Et moi, à 15 ans, je me pensais bien bonne de lui dire « Mais ma chérie, tu vas voir que tes illusions vont bien vite partir. » Mais finalement, je me rends compte que sous couvert de l'avoir écrit pour elle, je l'ai plutôt écrit pour le futur moi. Donc, quand je le relis aujourd'hui, en fait, c'était un poème pour le moi d'aujourd'hui.
Oh, intéressant.
Alors, ça commence, c'est-à-dire ça se présente comme suit. Petite fille innocente, tu as quitté l'enfance. Tu t'engages avec insouciance sur le chemin de l'adolescence. Sans savoir vraiment ce qui t'y attend, tu marches avec fierté, mais tu devrais te méfier. Tu rêves de visiter ce monde des grands qui te semble si inaccessible maintenant. Tant de gens aimeraient retrouver ta vie d'enfant, car le monde n'est pas aussi rose qu'on le prétend. Beaucoup d'obstacles tu auras à franchir avant de pouvoir pleinement t'accomplir. Comme tout le monde, tu auras à te bâtir, mais les pièces seront difficiles à obtenir. Jeune adolescente, tu connaîtras les victoires. Tes joies et tes rêves construiront tes espoirs. Mais la vie te fera bien vite savoir qu'on vit aussi des peines et des déboires. Tu devras rester accroché, car tu ne seras pas épargné. Tes illusions fondront comme neige au soleil. Tu auras du mal à trouver le sommeil. Les questions et les tourments de l'amour feront partie intégrante de ton parcours. Tu n'es pas la princesse de la Belle au bois dormant, et un mauvais garçon se cache sûrement derrière le prince charmant. Apprends à te relever, nombreux seront les coups d'épée. Contre-attaque avec assurance, mais ne montre jamais tes souffrances. Puise dans ta bonté pour pouvoir pardonner. Le temps transforme les plaies en cicatrices, et pour les cacher, tu devras faire l'actrice. Contrairement à ce que tu penses, il est difficile de faire confiance. Peut-être seras-tu ta seule confidente, mais c'est mieux que des amis qui te mentent. Aucune barrière ne te retient. Tu peux tracer ton propre chemin. Tente tes propres expériences. Saisis les uniques chances. Peu importe si tu es rebelle, l'important est d'être réel. Tes vrais amis te témoigneront du respect et les faux ne t'apporteront pas la paix. Petite fille innocente, tout ça pour te dire que la vie n'est pas une partie de plaisir. Bien qu'elle soit ardue, chaque instant mérite d'être vécu. Le seul conseil que je puisse te donner est de ne pas oublier qui tu as été. Dans quelques années, peut-être trouveras-tu un trésor. Qui sait s'il sera composé d'or. Ce sera sans aucun doute la récompense de ta route. Futur adulte, fais bon chemin. Le secret de ta vie est entre tes mains.
Wow! Ça, t'avais 15 ans à ce moment-là.
Oui, j'avais 15 ans à ce moment-là.
Comment la jeune fille de 29 ans considère ce poème-là 15 ans plus tard?
Pour être honnête, j'en ai aucune idée. J'ai pas... je trouve ça beau, écrit par une jeune fille de 15 ans.
Mm-hmm.
Je trouve ça vrai, peut-être représentatif de qui j'étais à ce moment-là.
Ouais.
Très réaliste aussi.
J'imagine, j'ai essayé, mais je pense qu'aujourd'hui, je me trouve bien... Je me dis que je me trouvais bien prétentieuse à 15 ans de prétendre tout connaître sur la vie.
Moi, j'ai eu l'impression que c'est un poème que tu aurais pu écrire plus tard dans ta vie. À 15 ans,
ouais.
Je trouve que tu jettes un regard sur la vie très, très, très détaillée pour quelqu'un qui commence à peine.
Ben merci. Et pourtant, je vous promets que c'est bien copyrighté 2011.
c'était dur avec toi parce que c'est une époque et c'est pas tout le monde qui a cette aisance que tu as à 15 ans. C'est une époque où souvent on pense qu'on connaît beaucoup de choses. Et c'est
ouais.
bien, c'est bien ainsi.
Ouais.
C'est bien ainsi. C'est ce qui nous permet de continuer dans la vie, non?
Oui, j'imagine. J'imagine.
Est-ce qu'on peut passer au...
À Libre.
Oui.
Oui. Alors.
À Libre.
Oui,
tiens,
il s'appelle
tiens.
Libre. Oui, spoilé là, oui.
Est-ce que je suis surpris?
Je pense que personne ici n'est surpris. Ça fait longtemps que j'ai pas lu ce poème-là. je l'ai écrit à mes 15 ans parce que je ressentais beaucoup d'injustice à ce moment-là. Et c'était le moment où je voyais beaucoup de mes amis faire des sorties, faire des choses que je n'étais pas autorisée à faire. Et je sollicitais beaucoup mes frères et sœurs pour qu'ils puissent faire la même chose avec moi. Malheureusement, puisque j'étais la plus jeune, il n'y avait pas toujours ce temps-là. Mm-hmm. Donc, j'ai tenté de mettre dans ce poème la détresse que je ressentais face à l'injustice de ne pas, justement, de ne pas pouvoir être libre.
Alors, on t'écoute.
Ça va comme suit. Combien de fois ai-je attendu? Combien de mois ai-je survécu? Toujours dans l'attente, dans l'espérance latente, surpassée par le désespoir amer qui m'habite et qui m'enterre. Ils sont inconscients de ma détresse émotionnelle, ne savent pas que, pourtant, j'ai une patience éternelle. Je suis prisonnière de moi-même, j'ai beau le savoir. Je préfère rester innocente et quand même y croire. Combien de promesses non tenues? Combien de pactes non formulés? Je ne veux plus être retenue. Laissez-moi partir et voler. Je vivrai sans contrainte, libérée de toute crainte. Je marquerai sur mon cœur le sceau du bonheur. Vers qui me tourner? Ceux que je croyais francs m'ont abandonné, rompant leur serment. Effleurer mes rêves ne me suffit pas, car je suis une fille qui ne vit pas. Je souhaite faire renaître celle que j'étais, revenir à l'époque où tout brillait. Je désire briser ces barrières, que dans ce kaléidoscope d'émotions, je puisse être fière de toutes ces choses qui sont mes passions. Qu'au milieu des miens, je crie pour mon bien, que je clame haut et fort mes intentions, sans détour ni inhibition. Pardonnez-moi mon insistance, mais elle est nécessaire. Pardonnez-moi mon insouciance, mais je vis à ma manière. Laissez-moi rire, car j'en ai besoin. Laissez-moi vivre, je veux partir loin. Aujourd'hui et non plus tard, car bientôt sera trop tard. De quoi sera fait demain, je ne le sais pas. Mais je veux vivre ce jour comme s'il n'en restait pas. Aujourd'hui, je n'attends plus. Plus de promesses non tenues. Aujourd'hui, je ressuscite. Ranime la parcelle de moi qui subsiste. Aujourd'hui, tout brille chez moi. Car c'est en moi que je crois. Je suis un rêve éternel, fragile mais réel. Au milieu des miens, je crie pour mon bien. Laissez-moi vivre. Laissez-moi être libre.
Hmm. Et il faut se souvenir que tu as écrit ça à 15 ans.
Oui, donc c'est... Désolée, pardonnez le style très... je sais pas.
Oh, on te pardonne rien. Je trouve que... l'écriture a vraiment été une façon d'exprimer ce que tu étais et ce que tu voulais. C'est, dans mon esprit, c'est clair.
Oui, c'est ça.
Mais créer fait partie de ta vie. Je vais reculer dans le temps. À 5-6 ans, tu nous as dit que tu t'enregistrais sur cassette en des histoires que tu inventais. D'ailleurs, j'avais la question, mais je ne voulais pas t'interrompre. Est-ce que ces beaux poèmes, tu les as enregistrés?
Oh non.
Non, non. Okay. Oh non, ça vient du cœur, comme si c'était pas bon.
Ouais. Non, mais c'est juste parce que à ce moment-là, c'était qui j'étais et je pense que l'écriture a représenté ça pendant longtemps, un moyen d'exprimer qui j'étais, mais il ne faut pas oublier que... faut pas oublier. Je dirais plus comme un élément à prendre en compte que j'avais tellement soif de vivre que quand j'ai vu de l'eau, de vie, ben je l'ai pris.
Mm-hmm.
Donc, j'ai consacré la deuxième moitié de ma vie, de mes 15-16 ans jusqu'à aujourd'hui, à vivre. Donc, c'est plutôt que j'ai un petit peu... je dirais pas mis de côté cette partie-là de moi, mais j'ai beaucoup ressenti que ma vie était en pause à ce moment-là et j'avais une fièvre de rattraper ces années-là que j'avais perdues, qu'on m'avait malheureusement, que je sentais qu'on m'avait malheureusement dérobée. Donc, j'ai beaucoup focusé après sur ben j'avance, je fais ce que j'ai à faire, puis je poursuis mes rêves un à un plutôt mm-hmm. que oh, je m'assois puis ça serait intéressant d'enregistrer tel poème. Tu sais, aujourd'hui quand je le lis, puis vous avez peut-être raison, Francine, de dire que je suis dure avec moi-même, mais je trouve ça très beaucoup d'emphase sur le désespoir et sur c'est très quasiment dramaturge.
Oui, mais c'était lié à votre âge aussi. Oui. Est-ce que, Salma, tu es consciente là, de ton aisance à exprimer des sentiments complexes? Là? Oublie là, que tu n'étais pas bonne à 15 ans. Là. Oublie ça. Mais sérieusement, de te servir de la parole aussi bien pour parler de choses aussi complexes. Est-ce que tu en es consciente de cette force-là?
Un peu, quand même. Mais je pense justement que c'est pas donné à tout le monde de comprendre la profondeur, mais en même temps, ça me fait moi-même réaliser quand je relis ça à quel point j'avais besoin d'exprimer ça.
Tu avais besoin de l'exprimer. Et aujourd'hui, tu es quand même en contact avec des jeunes jeunes qui sont peut-être à l'âge où tu as écrit ces textes-là. Mm-hmm. Est-ce que tu es à l'écoute de ces manifestations orales ou écrites que peuvent produire ces jeunes-là, soit à l'ACFEV ou encore dans ton travail à l'INCA?
Mais je dirais beaucoup dans mon travail, j'en ai de certaines de ces manifestations-là. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai fait, je pense que je suis devenue la professionnelle que je suis devenue pour justement donner une place, une tribune à ces jeunes-là pour pouvoir me parler de ce qu'ils vivaient. Cela étant dit, je n'ai pas rencontré précisément une ou des personnes qui vivaient la même chose, même à peu de choses près, mais... pour moi, juste le fait de les écouter, mais ce que je mets au centre de mes interventions avec eux, ça va être de privilégier ce qu'eux veulent. Donc, c'est moi, j'oublie mon cadre de référence. Il n'est pas important à ce moment-là. Ce qui est important, c'est ce qu'eux me disent, c'est ce qu'eux souhaitent, c'est ce qu'eux désirent. Et donc, je centre mon intervention sur eux.
Et comme administratrice à l'Association des Québécoises des parents qui ont des enfants handicapés visuels, est-ce que ton rôle est semblable ou tu fais ce... En fait, c'est pas ce travail, c'est du bénévolat que tu fais.
Oui.
Pourquoi?
Parce que j'ai réalisé, en fait... En fait, au début, c'est un poste qu'on m'a offert. C'est vraiment quelqu'un qui est venu me chercher. Je me suis pas proposée de moi-même. Et on est venu me chercher en me disant, notre profil, ton profil nous intéresse. Et on voudrait avoir la jeunesse dans notre conseil. Et on pense que tu es une personne qui ferait l'affaire. Et j'ai accepté, sans savoir vraiment dans quoi je m'embarquais. Pour moi, c'était des réunions, la prise de notes, etc., présence à des événements, c'est bien le fun. Et plus j'allais là, plus je réalisais en fait que les parents qui ont des enfants avec une limitation visuelle, il y a une chose qu'ils n'ont pas, c'est des modèles d'adultes comme leurs enfants.
Qu'est-ce qu'ils sont devenus, finalement?
Ouais, qu'est-ce qu'ils sont devenus?
Mmh. Oui, oui, oui.
Et je me rends compte que quand j'assiste à leurs événements, c'est ce que les parents aiment. Donc, mon rôle et beaucoup plus auprès des parents qui viennent me demander conseil, qui viennent me parler de leur enfant, se déposer et me dire, tu sais, avant toi, je savais pas ce que pouvait devenir un adulte je savais pas comment envisager l'avenir de mon enfant. Je savais pas qu'est-ce que ça pouvait devenir un adulte qui avait une limitation visuelle comme mon enfant. Et mon enfant me pose des questions, mais je vais être quoi quand je vais être adulte? Ça va ressembler à quoi, ma vie d'adulte? J'avais pas de réponse pour lui, mais aujourd'hui, j'en ai.
Est-ce qu'il y en a qui expriment des sentiments de surprotection, qui te questionnent là-dessus? Est-ce que j'agis bien, là?
Oui, 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 c'est arrivé. Et je leur dis que je ne suis pas spécialiste là-dedans, que j'ai juste de l'expérience personnelle, que j'essaie de les guider au mieux, mais toujours en les dirigeant vers de bons spécialistes, parce qu'après, mon expérience à moi reste de mon expérience à moi et c'est empirique.
Oui.
Mais quand j'exprime ça, j'essaie de faire très attention parce que le parent, la dernière chose qu'il veut, c'est se sentir blâmé de surprotéger son enfant. Pour lui, c'est légitime ce qu'il fait. Donc, moi, j'essaie beaucoup de le passer à travers. Ben, c'est normal, vous aimez beaucoup votre enfant, mais est-ce que vous pensez à l'avenir que votre enfant va avoir dans 5, 10, 15, 20 ans? Et avec cette perspective-là, des fois, je vois du changement où le parent réalise que c'est vrai que j'aime mon enfant, mais est-ce que je suis en train de l'aider?
Mm-hmm. Oui, l'amour ne doit pas étouffer l'autonomie d'une certaine manière, c'est ça?
Oui. Mm.
Salma, tu m'as déjà fait rire dans une entrevue qu'on avait faite ensemble.
C'est vrai.
Par ton poste, le titre de ton poste. Tu es chef de programme jeunesse à l'Institut national canadien pour les aveugles,
oui.
l'INCA.
Oui.
Tu peux-tu me raconter en 10 phrases ou moins qu'est-ce que tu fais dans la vie?
10 phrases ou moins? Oh boy! Ben, c'est pas très sorcier, hein. Moi, j'accompagne les jeunes qui vivent avec une limitation visuelle et je les aide à s'épanouir de la façon dont ils le souhaitent. À l'aide de plusieurs activités de groupe qui mélangent le loisir psychosocial, les groupes de soutien, d'entraide, d'autres activités ludiques, des activités pour se développer. Donc,
ça, c'est ce qui est probablement écrit sur ta description de tâche.
Oui.
Alors, raconte-nous un ou deux projets sur lesquels tu travailles présentement. Juste pour m'apercevoir qu'est-ce que ça fait la chef des... etc. La chef des programmes.
Deux projets sur lesquels...
Oh, comme, seulement un, mettons.
OK. En fait, je ne suis juste pas certaine. Deux projets que je fais ou comme deux projets sur lesquels je travaille pour l'avenir?
Non, que tu fais présentement.
Présentement, j'anime un groupe d'entraide, donc pour les jeunes adultes. De 18 à 30 ans. Donc, ils peuvent choisir leur sujet. Mm-hmm. Et moi, je leur donne un espace pour se déposer et discuter. C'est, je pense, ma formule la plus populaire, soit groupe d'entraide ou groupe de soutien. Et ce n'est pas un projet que je fais en ce moment, mais je suis en train de faire la promotion d'un camp anglophone qui appartient à INCA, auquel on va à chaque année, auquel je me rends à chaque année, avec de jeunes adolescents de 12 à 18 ans. Et on se rend là-bas une semaine. C'est un camp de vacances tout inclus, où ils ont la chance de développer leur autonomie, leur confiance, et de pratiquer des sports et des loisirs adaptés et accessibles, parce que le camp est 100% accessible. Et en plus, l'autre défi, c'est que c'est un camp anglophone. Donc, c'est une semaine pour nos francophones d'immersion anglophone. Donc, c'est moi qui prépare et gère ce projet qui existe depuis bien avant que je sois en poste, mais c'est moi qui ai hérité du dossier vu mon poste. Donc,
Et
la gestion de A à Z.
Et tu lui donnes une couleur maintenant. Tu lui donnes ta couleur.
J'essaie.
Est-ce que tu rencontres parfois des salmas dans les jeunes avec lesquels tu fais cette activité-là?
C'est une bonne question. Tu veux dire des personnes qui ont mon nom ou des personnes qui ont ma vie?
Non, non. Des personnes dont la vie ressemble à celle que tu as vécue.
Malheureusement, non. Et la réponse est simple. C'est que si ces personnes-là avaient la vie que j'avais vécue, moi, je ne serais pas partie en camp de vacances. Donc, les gens qui vivent des vies comme celle de Salma, ils ne partent pas en camp de vacances à 15-16 ans.
Oui,
moi,
oui, oui.
Je pense que je ne suis jamais partie en camp de vacances. La première fois que je suis partie, ben, je devais avoir plus que 25 ans.
À cause des eaux de verre?
Oui, à cause des eaux de verre.
Comment donc ton cours à toi influence ton travail? Est-ce qu'il y a des éléments dans ton travail sur lesquels tu mets beaucoup plus l'accent parce que toi, ça t'a fait du bien?
Mais je dirais aider le jeune à reprendre son pouvoir. Moi, c'est vraiment au cœur de mon approche. Ce n'est pas d'écouter l'intervenant ou d'écouter le parent à propos du jeune ou d'écouter l'enseignant. C'est qu'est-ce que toi, tu veux? Quelle est toi ta définition de ton propre épanouissement?
Mm-hmm. Et est-ce que tu accompagnes parfois des jeunes dans la lecture, dans l'écriture, dans l'expression orale, trois éléments dans lesquels tu as trouvé des éléments intéressants pour toi?
Oui, absolument. L'année dernière, l'hiver dernier, j'ai animé un club de lecture et j'ai fait lire à mes participants le livre « Le Petit Prince ». De Antoine de Saint-Exupéry.
Mm-hmm.
Donc, je les ai accompagnés. Ils lisaient seuls, mais après, on faisait un retour sur le livre. J'ai déjà accompagné quelques jeunes dans l'écriture de choses qu'ils souhaitaient écrire, mais qui ne savaient pas comment. Donc, ils me disaient ce qu'ils voulaient exprimer et je les aiguillais en ce sens. Et pour l'expression orale, ben déjà d'animer un groupe de soutien, un groupe d'entraide pour des jeunes qui ont parfois, c'est pas le cas de tout le monde, mais pour les jeunes qui y reviennent, ce sont des jeunes qui ont un grand besoin de se sentir vus, de se sentir entendus,
ouais,
de se sentir importants. Donc, pour moi, ça, c'est une manière de leur offrir une tribune et de les accompagner dans leur prise de parole.
Tu parles d'accompagnement? Mais souvent, les amis nous accompagnent aussi. Alors, on va accueillir un de tes amis,
oui,
qui est aussi un collègue de travail à l'INCA, qui est un consultant en accessibilité digitale.
Qui
pourrait être un chouchou de notre émission. On va y penser,
oui,
cette semaine.
Oui.
Alors, son nom, c'est Aïtel Ouedakar. Bonjour, Aïtel.
Salut tout le monde.
Ça va bien?
Ça va bien, vous?
Oui, ça va. Dis-nous, Aïtel, comment toi, tu as rencontré Salma?
On s'est rencontrés, ça fait juste... c'était notre anniversaire de rencontre, justement.
Arrête donc, un anniversaire de rencontre, hein? Vous allez faire un party?
On est en train d'y réfléchir, en fait. On s'est rencontrés, ça fait bientôt 10 ans. Ça fait déjà 10 ans. Et c'était à l'époque, j'étais dans une école secondaire. Et un de mes très bons amis de l'époque avait fait venir Salma, qui était une graduée de l'école, qui était venue rendre visite à notre ami en commun. Et il m'a présenté Salma et il y a eu de l'électricité, on s'est apprécié, on est devenus amis.
Vous êtes devenus amis. Et qu'est-ce qui vous lie aujourd'hui? J'ai compris que les mangas, en tout cas, c'était peut-être quelque chose que vous partagiez.
Oui, justement, encore une fois avec notre ami en commun. Moi, je suis un amoureux des mangas depuis ma tendre enfance. Et notre ami en commun et moi, on a toujours parlé à Salma de nos mangas, de Naruto, Dragon Ball, Bleach. Bref, il y en a plein.
Tu dois mentionner One Piece, je m'excuse, parce que je l'ai mentionné.
Il faut mentionner One Piece, bien sûr. One Piece.
Bon, voilà, c'est donc fait. Puis elle est très contente, elle a un grand sourire, Salma. Elle est heureuse, tu viens de faire sa journée, comme on dit.
Oui. Donc, on lui a toujours parlé, en fait, de notre passion à en fait, apprendre, parce que pour nous, les animés, les mangas, c'est pas juste des cartoons, ils apprennent des histoires. qu'on développe des thématiques importantes, autant que ce soit de la géopolitique à la psychologie individuelle, etc. Et Salma nous a toujours trouvé intrigant. Et parce qu'il y a un gros côté visuel au manga, mais après plusieurs années, on va dire, de légère réticence, elle s'est ouverte au manga et elle a adoré. Maintenant, elle en voit plus que moi. Donc,
Alors, bon, mais...
Légère réticence.
Mais oui,
bien.
C'est ça, on sent ça.
Mais la lecture pour vous deux a été quelque chose d'important dans votre jeunesse, dans votre parcours. Il l'est encore. Mais Aïtel, toi en technologie, comment tu vois l'évolution de la technologie pour faciliter l'accès à la lecture pour les personnes qui ont un handicap visuel?
Je pense déjà que, en fait, vous le savez, comme je travaille en accessibilité digitale, l'accessibilité digitale va dans également le concept du design universel. Et donc, on va te dire souvent qu'un outil doit être créé en incluant, en mettant l'accessibilité dès les fondations. Et dans cela, je trouve que de nos jours, on a notamment Audible et d'autres plateformes de littérature audio qui ont été développées. La semaine passée, je donne un atelier, j'ai parlé également du site littératureaudio.com, qui sont tous en fait des plateformes disponibles au grand public qui donnent accès aux livres audio. Et ce que je trouve fantastique, c'est que aujourd'hui, on a accès à toutes ces méthodes-là, toutes ces technologies de livres audio. Et à une époque, on aurait dit que c'était juste les personnes non-voyantes qui aimaient écouter des livres audio, mais oui. Aujourd'hui, parle avec les gens, quasiment tout le monde va me dire qu'il a son podcast, il a son émission audio, tout le monde adore le contenu audio, donc ce qui fait que ça s'est démocratisé et ça facilite l'accès à toutes les personnes aveuglément parce que beaucoup de livres sont faits et sont directement disponibles en format audio, ce qui nous facilite la vie à tous.
Salma, tu m'as déjà parlé avoir jumelé des poèmes que tu avais écrits à de la musique grâce à l'intelligence artificielle. Parle-nous de cette expérience-là.
C'était très drôle. En fait, j'ai fait ça pour m'amuser. J'ai un ami qui écrivait des chansons pour le plaisir, puis qui avait découvert un outil d'intelligence artificielle qui lui permettait de créer de la musique avec des paroles et tout. Et moi, à un moment, j'avais écrit vraiment une parodie d'une chanson. C'était vraiment, tu sais, j'avais pas l'intention de mettre mes propres paroles. C'était vraiment la parodie d'une chanson.
Tu peux faire des parodies, toi?
Ben...
Excuse-moi, continue.
Oui, I guess. Mais c'était vraiment... C'est parti d'un délire. C'est parti du plaisir de faire quelque chose pour m'amuser. Et ça n'a pas extrêmement bien marché parce que le logiciel n'était pas de l'accessibilité la plus accessible. Donc, après beaucoup d'impatience, y a un problème avec moi, c'est que même si je suis quelqu'un d'impatient, quand quelque chose me résiste, je persiste jusqu'à ce que ça fonctionne. Et à un moment donné, j'ai fini par comprendre comment est-ce que tout ça marchait. Et je me suis dit, ah, soyons drôles, soyons inventifs. Prenons mes poèmes avec des paroles, mettons-les dans l'outil d'écriture de paroles, parce qu'on pouvait générer des paroles, mais on pouvait également écrire ses propres paroles.
D'accord.
Et donnons un style qu'on veut que ce soit à l'intelligence artificielle et laissons-le générer une chanson avec mes paroles.
Mm-hmm.
Bon, les premiers résultats se sont avérés. Je dirais pas qu'ils étaient mauvais, mais c'est devenu plutôt de plus en plus bon.
Ah oui? Fait qu'on peut s'attendre un jour à entendre du Salma? Ou...
Oh, je ne sais pas. Je dirais pas que c'est bon à ce point-là. mais c'est assez bon pour qu'on ait envie de l'écouter quand on veut du bon vieux Salma.
Okay, ah, je pensais que tu allais dire du bon vieux rap ou quelque chose comme ça. Là.
Ça peut être aussi...
Poème et rap, ça va bien ensemble.
Oui, oui, puis c'est drôle que tu mentionnes ça parce que oui, en plus des poèmes, ça m'arrive. Je suis aussi une personne qui malheureusement doit trouver des moyens d'exprimer sa colère et parfois ça passe par le rap. Donc oui, on peut, pas dans le bon vieux salement, on peut aussi trouver du bon vieux rap.
Est-ce qu'Aïtel, tu partages cette passion avec Salma?
Bon, par coïncidence. Également, Salma et moi, donc, on partage la lecture, mais on partage aussi l'écriture. On a écrit également des poèmes ensemble il y a quelques années. Et oui, au même moment où Salma s'ouvrait à la production musicale avec Logiciel IA, moi également, j'ai commencé à en faire également. Donc, Salma et moi, on s'est retrouvés au studio ensemble déjà. Et bon, c'est plutôt cool.
On pourrait en parler longuement, mais quand même, on va se permettre de te poser une question, puis on espère que dans un avenir très, très proche, on pourra t'en poser d'autres. Sérieusement, faudrait bien dire qu'on est un peu énigmatique, mais Aïtel est notre prochaine invitée. Oui, c'est ça, au balado, donc la semaine prochaine. Mais quand même, il y a eu beaucoup d'évolutions technologiques. Est-ce que l'évolution technologique est aussi... je dirais rapide pour tous les outils de soutien et de support aux gens non-voyants que ça l'est pour, je dirais, de façon générale dans l'ensemble de l'industrie?
Je dirais que malheureusement, la réalité de l'industrie de la technologie fait que les personnes avec handicap sont... on pense à elles après. Et ce qui fait que donc l'arrivée des nouvelles technologies, justement dans cette discipline-là spécifique de la technologie en elle-même, peut être des fois un peu lente. Mais je dirais qu'on peut déjà commencer à voir l'ajout de l'IA dans plusieurs logiciels et plusieurs technologies adaptées. Cependant, ce que je dois dire, c'est que je note quand même que l'innovation n'est pas encore complètement arrivée. Il y a encore du travail qui se fait. Je pense que ça va continuer à s'améliorer. Mais ce que je déplore réellement, c'est le fait que de plus en plus, dans des logiciels à grand accès public, je remarque, je ne vais pas en nommer pour ne pas être en conflit, mais il y en a plusieurs que je remarque de plus en plus qui mettent l'accessibilité de côté. Ils font des mises à jour pour augmenter leur performance, améliorer leurs outils, mais quand tu regardes l'accessibilité, des fois je me dis qu'il y a quelques années on était à un meilleur point, même si déjà là on n'était pas là où on devrait être. Malheureusement, il y a encore beaucoup de travail à faire.
Est-ce à dire que le rêve de Salma, en tout cas elle a déjà dit ça, je crois, Yvan, à la blague, de rêver de conduire son propre char, dans une entrevue, alors est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas prêt de se réaliser?
Aujourd'hui,
l'auto-autonome,
la voiture autonome, elle est déjà une réalité dans certaines parties du monde.
Mm-hmm. Et, mais pour quelqu'un qui est non-voyant?
La réalité, c'est que les modèles qu'on construit aujourd'hui demandent qu'il y ait au moins un humain qui soit au volant. On n'a pas encore de modèle complètement autonome. Les structures où j'ai pu le voir, et ça c'était surprenant, c'était déjà depuis avant 2020, il y a des modèles où en fait ce sont des voies où il n'y a que des voitures autonomes qui circulent avec des systèmes automatisés. On a retiré la variable de l'humain qui va prendre des décisions différentes. Mm-hmm. Donc ça, ce n'est pas du tout populaire. C'est dans des petites cellules un peu partout dans le monde. On espère que, je pense déjà avec ce qu'on peut voir, par exemple en Floride et ailleurs, que de plus en plus ça va se démocratiser, que dans peut-être 10 ans. Je pense aujourd'hui, il y a 20 ans, on n'imaginait pas ça, c'était la science-fiction. Aujourd'hui, on a déjà un début de ça. Et j'aime dire des fois que si on a des avions avec des autopilotes, voiture avec autopilote aussi bientôt.
Salma, il nous reste très peu de temps, une minute et demie à peu près. Ta chaîne YouTube, c'est encore dans ton sac de projet?
Oui, dans mon sac de projet.
Puis ça va consister en quoi, cette chaîne-là?
Je ne l'ai pas encore sortie du sac, donc je ne peux pas savoir.
Un scoop!
Mais je ne peux pas vous inventer quelque chose que je n'ai pas encore créé.
OK.
Quelle prudence! Quelle sagesse!
On voudrait des invités quand même.
Ah, Ça sera à réfléchir.
Ça sera à réfléchir.
Oh, à réfléchir, oui. Pourquoi pas, je considère l'option. Mais avant ça, il faut que je la crée. Et j'ai toujours l'habitude de... Mon papa m'a enseigné de ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et dans ce cas-ci, je ne l'ai même pas encore... je me suis même pas encore mis à la chasse. Donc, ce serait très, très présomptueux de ma part.
D'accord. Est-ce que c'est un projet qui mijote depuis longtemps, Salma?
Oui, depuis 2019.
Non, c'est juste pour savoir si on a une chance un jour d'être...
Oui, mais vous savez... Est-elle et Africain, et on a cette passion en commun de bien manger, et dans tous les plats africains, plus ça mijote longtemps, plus la viande est tendre, et
oui,
le goût est juteux, ça ressort, les légumes. Vous savez, c'est pour moi, le fait que ça prenne du temps, c'est juste que...
Ça fait partie du plaisir.
Ben, ça fait partie du plaisir, mais surtout du processus, je dirais.
Quelle belle conclusion. Mm-hmm. Oh, merci, Salma. Ça a passé vite. Hein? Merci, Salma Moudrika, d'avoir participé à ce balado. T'es dynamique, t'es passionnée. C'était une petite dose d'énergie hein, ce matin.
Oui.
C'était vraiment bien. Et ça a été très généreux de ta part de nous raconter ton histoire, parce que toi, t'es plutôt habituée à en lire, lire celle que tu écris finalement. C'est un partage dans toute ta vulnérabilité, dans le sens qu'il n'y avait pas de cassette. Même si tu t'enregistrais sur des cassettes, dans le sens que tu étais très sincère et ça se sentait. C'était rafraîchissant, c'est le mot qui nous vient en tête, et apaisant. Quelle voix! Je répète, elle a une voix d'or et j'espère que tu vas nous en faire profiter davantage, d'une façon ou d'une autre. Mm-hmm. Adolescente, tu te sentais dans ta bulle, enfermée dans ta bulle comme bien des jeunes d'aujourd'hui, mais tu as trouvé des moyens de t'en échapper, puis aussi de stimuler les jeunes avec qui tu es en contact dans tes activités professionnelles et personnelles. C'est vraiment bien. Merci pour reprendre les mots que tu as utilisés lors d'une entrevue à la petite fille de 10 ans qui a persévéré. Merci également à ton ami Aïtel Wedakar d'avoir été avec nous ce matin, puisque ça nous a permis de parler d'une partie de ta vie qui est l'amitié. Alors, ce balado est une réalisation de Mathieu Tessier. À la recherche et à l'animation, Yvan Deslauriers et Francine Forget. Au-delà des limites est une production de Canal M, la radio de l'inclusion.